C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Eh bien bonjour, c'est Hugo. J'ai le plaisir de vous accueillir dans Les Boulons, la deuxième émission des Boulonnais. Je suis en compagnie de Marie, étudiante en troisième année d'infirmière, pour nous présenter le sommaire de cette émission.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Moi je suis Marie, je vais vous présenter le sommaire de la douzième édition avec Hugo.
Donc tout d'abord, Vanessa va nous présenter en compagnie de Ophélie et Hélène une rubrique santé qui aura pour sujet l'observance du traitement. Ensuite, je vous présenterai les dernières nouvelles du groupe d'entraînement mutuel Le Bel Envol.
Nous ferons une première pause musicale proposée par Yannick avec les yeux d'Émilie. Ensuite, Michel va nous parler de son expérience d'une course à pied.
Dans la peau d'un coureur.
Exactement, Hugo. Ensuite, Cathy va nous présenter un roman.
Après, nous aborderons un sujet beaucoup plus sérieux qui nous concerne en ce moment, dans l'actualité. C'est Pierrick qui nous portera du code du travail. Ensuite, Thomas, pour un sujet beaucoup plus apaisant, nous présentera le yoga.
Nous ferons une troisième pause musicale proposée par Luc. Puis Elisabeth nous parlera d'un atelier d'art thérapeute aux côtés de Aude et Christine. Puis nous ferons quelques petites informations diverses sur la fête du Haran.
J'espère que cette émission vous plaira. Tout de suite, nous commençons avec Vanessa et Ophélie.
Alors, bonjour Hugo, bonjour Marie.
Bonjour Vanessa.
Alors, bienvenue à ma chronique santé. Je suis en compagnie d'Ophélie et Hélène, toutes deux étudiantes infirmières en dernière année à l'hôpital psychiatrique de Boulogne. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est l'observance du traitement. Alors, en effet, je m'appelle Vanessa, j'ai 35 ans. Je suis tombée malade en 2002. Je connais bien les conditions de l'internement et aussi l'importance de prendre son traitement. Alors, Ophélie, tu peux nous donner un peu ton point de vue en tant qu'infirmière par rapport à la prise d'un traitement.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, en tant qu'infirmière et plutôt future infirmière pour ma part, l'observance du traitement, ce n'est pas juste vérifier que la personne ait pris son traitement, c'est s'assurer qu'elle ait compris ce qu'est le traitement, ce qu'il va lui apporter, les effets indésirables et négatifs qui sont possibles. Donc c'est aussi être à l'écoute de chaque question ou de doute que la personne a par rapport à ce traitement. Donc il faut qu'elle le connaisse, qu'elle connaisse son importance. Ensuite, donc c'est pas uniquement donner un traitement pour le donner, il faut vraiment que la personne soit actrice de sa prise en charge. Et donc nous, on s'occupe aussi de faire le relais avec le médecin prescripteur.
D'accord. Et il y a Hélène hein, qui voulait nous expliquer un peu la prescription médicale.
Tout à fait. Il faut savoir que l'infirmière a deux rôles, donc le rôle propre et le rôle sur prescription. Donc le médecin prescrit des ordonnances ou tout acte médical que l'infirmière peut mettre en place. Et donc nous, en première année à l'école, on nous apprend, je pense que c'est la base de l'observance du traitement justement, c'est la règle des 5 B. Donc il s'agit du bon patient, du bon médicament, du bon dosage, du bon moment et de la bonne voie.
D'accord.
Voilà, donc c'est ce qu'on vérifie avant chaque prise de traitement pour les patients.
D'accord. Est-ce que c'est vous qui préparez justement le traitement avant d'être distribué, avant le repas
Tout à fait, oui. Grâce à nos études, donc la pharmacologie qu'on apprend tout au long des études, on a la possibilité de préparer. Donc on vérifie l'ordonnance, on vérifie le nom du médicament, le dosage, s'il y a un changement de traitement. Tout ça sur le rôle du prescripteur du médecin.
D'accord. Et c'est vous qui, enfin, du coup, dans vos études, vous apprenez les différents effets de tous les traitements
Tout à fait, oui. On apprend la famille du médicament, parce qu'il y en a plusieurs, les voies possibles, le matériel à notre disposition. Donc, est-ce que c'est des gouttes, est-ce que c'est des comprimés, des injections, tout cet environnement.
D'accord. Alors moi, je voulais témoigner aujourd'hui de l'importance de la prise du traitement. Donc au début, c'est en tant que patient, c'est difficile à accepter.
C'est très difficile.
Parfois, on se dit ouais, je suis pas malade, ça sert à rien. D'où l'acceptation qui se traduit vraiment en un premier pas vers la guérison. Quand on accepte de se dire je suis malade, faut que je me soigne, c'est déjà un premier pas dans la guérison.
Mais alors, comment avez-vous compris l'importance de prendre le traitement et est-ce que vous l'avez vécu comme une contrainte ?
Ça n'a pas été facile.
Ouais, c'est difficile. Avec le temps, tout s'en va. Hein. Mais j'ai compris qu'il fallait que je le prenne. Déjà, j'en ai essayé plusieurs, donc ça déjà aussi, c'est déjà une contrainte d'essayer plusieurs molécules. Hein. On voit les effets que ça produit. Donc, alors, sachant que je suis reconnue médicalement schizophrène, donc j'ai essayé plusieurs molécules et j'ai compris qu'il fallait accepter d'avoir une faiblesse et donc de se soigner. Donc j'ai réellement compris que j'étais obligée de le prendre. Car j'ai cessé de le prendre pendant une certaine période. Je me suis dit oui, ça sert à rien, je suis pas malade. Donc et là, les symptômes sont revenus un an après. Pendant un an, ça a été, j'entendais pas de voix ni rien. Mais au bout d'un an, je sais pas pourquoi, le corps a repris. Je me suis dit bon bah je vais le reprendre, on va essayer si vraiment il y a une différence.
C'est vrai que si on prend pas ces cachets, si on les arrête comme ça, ça conduit forcément, je pense, à une rechute.
Une rechute et une réhospitalisation.
Voilà.
Mais en fait, il n'y a que le patient qui peut le faire parce qu'il n'y a pas de devoir d'observance finalement.
Voilà, c'est tout à fait ça.
Il faut se responsabiliser.
Bien sûr. Il est le seul maître de cette situation. Et puisque donc, acteur, c'est ce qu'a dit Ophélie, l'étudiante infirmière, à juste titre. Oui. Si vous n'êtes pas acteur de votre prise en charge, ça ne marche pas, c'est évident.
Elle disait aussi, c'est quelque chose d'important, c'est que il faut s'assurer que le patient ait bien compris ce que c'est le traitement.
Bien sûr. Et ce qu'a dit Vanessa à juste titre, c'est le bon traitement, le bon médicament à la bonne personne, et le temps qu'on trouve que la personne réponde à un certain médicament, ça a été long. Oui. Mais bon, je pense que tous les deux vous êtes témoins. Ça fait très longtemps qu'on vous a pas vu à l'hôpital et on est super contents de ça.
Ouais,
hein.
Moi, ça fait 7 ans et demi là.
Voilà.
Je compte les années. Et
ouais, c'était
bien.
Super.
Ouais. Donc voilà. Donc
et que ça continue.
Voilà. Ophélie, tu m'as demandé c'était quoi la contrainte. Alors, déjà accepter d'être malade, donc c'est déjà une contrainte psychologique. Hein, déjà.
Et en fait, on a beaucoup peur des effets secondaires qui font beaucoup parler d'eux.
Bien sûr.
Et d'où l'importance justement de bien vous les expliquer pour que vous sachiez que ça peut arriver en fait et pas.
Voilà. Donc, c'est une condition pour aller mieux dans la vie.
Bien sûr.
Donc après mon hospitalisation, là, la dernière, il y a plus de 7 ans, du coup je suis suivie par mon psychiatre mensuellement parce que la contrainte c'est que le Léponex, hein, la molécule que je prends, est dangereuse pour la santé, donc apparemment ça mange les globules blancs.
Je
donc,
prends le Léponex, il faut faire des prises de sang.
Des bilans, tout à fait.
Mensuel. NFS, numérotation.
Numération.
Voilà. Donc ça c'est une contrainte aussi hein, de tous les mois de faire une prise de sang. Bon bah c'est pas, je veux dire même. Et donc je suis rassurée de voir mon psychiatre tous les mois, voir que les résultats sanguins sont bons, que je peux continuer ce traitement-là parce que je voudrais pas arriver hein, et je le souhaite pas. Hein, c'est qu'un jour le traitement ne me suffit plus et qu'il faudrait que j'en essaye d'autres. Et donc là aujourd'hui je suis vraiment stabilisée avec ce traitement là. Donc c'est génial, c'est magnifique.
Et ben
alors
c'est le travail difficile des infirmiers en santé mentale, c'est l'observance du traitement et qu'il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui intervient pour maintenir ça. C'est pour ça aussi qu'il y a les CMP, les infirmiers de secteur qui vous suivent à domicile au départ, ou après vous venez, et puis après ça va mieux,
c'est
dans
l'observance. C'est ce que je voulais dire aussi, La contrainte quand on sort de psychiatrie, il y a toujours un regard bienveillant des infirmières, hein, c'est ce que vous dites, mais c'est une contrainte aussi dans la vie privée, parce que là, on a les infirmières qui viennent le matin voir comment la maison est tenue, si on prend bien notre traitement. Enfin, c'était une contrainte aussi, ça, au début.
Je pense pas
qu'il... à la fois, c'était aussi rassurant.
Je voudrais intervenir un petit peu. On parle depuis tout à l'heure de l'observance. Je voudrais juste signaler que l'observance, c'est la bonne prise du traitement, la bonne prise des médicaments pour le commun des mortels, parce qu'on est quand même dans le milieu. Et...
Moi, je prends 3 fois par jour du Leponex. Je ne sais pas, c'est un médicament qui n'est pas trop connu. C'est un neuroleptique.
C'est
donc
un médicament, mais... On l'utilise
en fait, on l'utilise seulement quand des neuroleptiques n'ont pas fonctionné sur la personne, en sachant qu'il y a 2 formes de neuroleptiques, donc les basiques et les atypiques. Donc il faut que la personne essaye les 2 avant que le médecin puisse prescrire le Leponex.
Et atypique, ça veut dire quoi dans ce cas-là?
C'est une autre forme de médicament, en fait. C'est la molécule qui
change. Plus forte?
Je sais pas.
Après, il y a Pierrick qui avait fait dans une émission antérieure, qui avait parlé des antipsychotiques et qui a parlé des anciens psychotiques, ancienne génération et nouvelle génération. C'était... Effectivement, le patient a sa propre réceptivité par rapport au traitement et que voilà, c'est ça, on peut pas le savoir avant. Mmh. Sinon, ça serait miraculeux d'emblée.
Alors, je voulais dire que j'ai quand même pris 40 kilos. C'est pas 5, c'est pas 7, c'est 40 kilos. Et bon, aujourd'hui là, je veux dire le traitement, mon corps l'a bien assimilé, donc je peux faire régime quoi. J'ai perdu du poids, j'ai perdu 12 kilos là en un an, tout en gardant ce traitement. Donc aujourd'hui, je suis stabilisée, je suis bien dans ma peau, dans ma tête, grâce au traitement. Donc je voulais dire aux gens qui écoutent cette chronique santé aujourd'hui que accepter, c'est d'être responsable de soi-même et qu'il est important de se soigner, de se guérir et de reprendre une vie normale.
Ce que vous avez fait vraiment magnifiquement, Vanessa.
C'est vrai.
Et Hugo également, magnifique.
Oui.
Bon, ouais. Je vous remercie, Vanessa, pour cette rubrique qui était très intéressante.
Merci, Marie.
Et merci également à Ophélie et Hélène.
Merci. Marie.
Donc maintenant, je vais poser quelques questions à Hugo pour qu'il puisse nous apporter quelques informations concernant l'évolution de l'association du Bel Envol. Alors, présentez-nous un petit peu ça, Hugo.
Oui, d'accord. Merci, Marie. Donc, le Bel Envol, c'est, à la base, c'est une association qui a pour but d'accueillir les malades psychiques stabilisés pour leur permettre de rencontrer du monde, de reprendre une place dans la société et donc se resocialiser. Ça fait 4 ans qu'on existe. Dernièrement, on vient d'obtenir notre statut de groupe d'entraide mutuelle, GEM.
GEM.
GEM, groupe d'entraide mutuelle. D'accord. Exactement. Je vous disais, ça fait 4 ans qu'on existe et qu'on essaye de faire bouger les choses. Parce que le groupe d'entraide mutuelle, il a été voté par la loi handicap du 11 février 2005. Donc c'est quand même des structures assez jeunes.
Et du coup, Hugo, quelles sont les activités que vous proposez au GEM justement ?
On propose toutes sortes d'activités. On essaye de viser large pour plaire à tout le monde. Et donc, il y a déjà les permanences où tout le monde est accueilli et peut venir participer, passer un bon moment ensemble autour d'une boisson, d'un petit biscuit. Mais sinon, les activités, c'est quand même le cours de sport hebdomadaire. Avec ça, il y a aussi de l'aquagym. Donc, on essaye quand même de faire bouger les gens. Sinon, c'est tout ce qui est yoga, marche avec stretching, et bientôt de la danse même. Vous voyez, c'est assez large.
Ils vont nous faire un spectacle. Ouais.
c'est une petite parenthèse, j'aime. Hein. C'est un moment dans la semaine.
Oui, c'est un petit moment où on vient se relâcher les nerfs, et puis rencontrer du monde. Sinon, il y a aussi les ateliers cuisine qui ont lieu une fois par mois. Donc, c'est dans les cuisines du Centre Social Éclaté de Saint-Martin. On fait donc on prépare le repas de 10h à midi et puis de midi à 13h30, on mange tous ensemble.
Voilà. Wow.
Eh bien. Donc, je vous disais, donc, Marie, on a notre statut maintenant, donc on va bénéficier grâce à ça d'avoir de nos propres locaux, grâce aux subventions de l'ARS.
Ouais.
Et voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore ?
L'ARS, Agence Régionale de Santé.
Oui, tout à fait, oui. Il y a plein de choses.
Vous êtes à peu près combien, alors, dans l'association ?
Pour l'instant, on est 27.
Bien.
Mais donc, je vous dis, on cherche nos locaux, et donc...
tu passes un peu la pub, voilà, genre...
petit appel.
Oui, si vous trouvez, si vous avez un local de libre quelque part, je sais que... on ne sait jamais.
Ouais.
Donc, je vous disais, on est 27, et donc, dans les statuts, on est prévu de pouvoir monter jusqu'à 5.
D'accord.
Très bien.
Bah, bonne continuation.
Moi, je tenais quand même à te féliciter le bel envol, parce que je sais que pour obtenir la reconnaissance groupe d'entraide mutuelle, c'est pas quelque chose d'évident. Il y a eu des dossiers, des ratadossiers, hein, oui, on va dire comme ça, et franchement, vous avez bossé... depuis ces 4-5 ans maintenant, 4 ans, pour obtenir cette reconnaissance. Et voilà, félicitations, parce que ce n'est pas quelque chose de si facile que ça.
Bravo. D'accord. Hugo.
Voilà, bravo à toute l'équipe.
Tous. Hein. Merci à tous.
Bon, bah, merci Hugo pour ces quelques précisions. Maintenant, tout de suite...
Donc, je veux simplement conclure, je dirais que vous êtes tous les bienvenus. Si vous nous écoutez et que vous souffrez, ou vous avez un proche qui souffre de maladies psychiques, eh bien, vous êtes le bienvenu.
Maintenant, la première pause musicale proposée par Yannick, Les yeux d'Émilie de Joe Dassin.
Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous revient? Son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
De retour sur Transat, maintenant Michel va nous parler de l'expérience de sa course à pied. Donc on vous écoute Michel.
Bonjour tout le monde, voilà. Dimanche matin, je me suis donc rendu à la Caloterie, un petit village du Montreuilois, pour participer à la 30e édition de la course à pied de la Saint-Firmin, organisée par le club local de course à pied. Alors, un copain m'ayant convaincu, et les prévisions météo étant au beau fixe, il ne m'en fallait pas plus pour me décider à m'inscrire à cette course que je n'avais plus disputée depuis 5 ans environ.
Alors, combien de kilomètres?
Alors c'était un 11 km, pardon, il y avait un 21 km, mais je n'étais pas assez préparé pour cette distance. J'avoue que maintenant je ne vise plus de chrono, ce qui m'évite de mettre une pression inutile, mais j'ai toujours une petite appréhension avant le départ d'une épreuve de course à pied. J'arrive donc à la Caloterie, suffisamment à l'avance pour m'inscrire tranquillement et obtenir le dossard et la puce électronique à mettre à la chaussure, pour le chrono à l'arrivée. Je rencontre bien sûr des coureurs que je connais, petit brin de causette avec les uns et les autres. Je procède ensuite au rituel épinglage du dossard sur le maillot et le passage de la puce dans les lacets de la chaussure. Mon copain arrive et nous allons nous échauffer, petit footing à allure modérée, indispensable pour éviter de partir à froid et occasionner une blessure. L'heure tourne, puis le départ du semi-marathon est donné. Nous nous tenons au premier kilomètre pour voir passer le peloton de coureurs et finissons notre échauffement. C'est ensuite à notre tour de nous élancer pour l'épreuve de 11 kilomètres. Nous sommes environ 150 participants. J'ai de bonnes sensations. Le premier kilomètre est un faux plat, mais je le passe très bien, peut-être trop bien. Le parcours est magnifique, petite route campagnarde, chemin ruraux, verdure. Je commence à sentir vers le quatrième kilomètre que je suis parti trop vite. La soif vient également me perturber. Il faut attendre le cinquième kilomètre pour avoir un ravitaillement. Celui-ci est le bienvenu. Je bois deux gobelets d'eau et repars tranquillement en me mettant en tête que l'essentiel est de finir. Je me fais doubler, mais cela ne gêne pas trop. Chacun a un mot d'encouragement. Le mot courage revient souvent. Je suis mon petit bonhomme de chemin, c'est l'expression adéquate. J'ai la satisfaction de passer une bonne matinée sportive dans une ambiance champêtre. Je m'accroche, passe le deuxième kilomètre. Encore un kilomètre, me dis-je, c'est le plus dur. J'avoue que je marche un peu. Un concurrent qui a terminé m'encourage. Cela me donne un coup de fouet. Je repars et franchis la ligne d'arrivée, très satisfait de ma performance. Mais je suis conscient qu'il y a encore du boulot pour les courses à venir, c'est-à-dire Outreau et le trail nocturne de Boulogne-sur-Mer courant novembre. Je voudrais noter aussi que quelques participants handicapés ont pu prendre le départ dans un siège roulant appelé jouellette, tracté par quatre coureurs valides venant de l'Institut Cazin-Perrocheux et le PAM du Touquet. Voilà.
Est-ce que vous pouvez rappeler votre âge, Michel?
J'ai 61 ans.
D'accord.
C'est une belle performance.
Merci.
Quand j'aurai ton âge.
Oui, c'est vrai que nous sommes de moins en moins en vétéran 3. C'est vrai qu'on est une catégorie qui est...
Alors, vétéran 3, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire avant ayant franchi l'âge des 60 ans.
D'accord.
C'est vraiment dur, hein, cette nomination. Enfin, oui. le nom de la licence vétéran, ça fait mal au cœur.
Ça fait mal au cœur, oui. Quand on passe, surtout V1, c'est vétéran, on a l'impression d'avoir appris un coup de vieux.
Exactement. mais dans d'autres sports, c'est pas ça. C'est licence adulte, ça fait mieux, je trouve.
Adulte, ouais.
Ça passe mieux.
Ça passe mieux, oui.
En tout cas, Hugo... À 60 ans, on courra avec vous encore, on espère.
Ben oui.
Hein, Michel, on l'accompagnera.
C'est un peu le secret de ta santé, ça, le sport, Michel.
Le sport, ça m'a sauvé aussi. Ouais. Ça. Je peux dire que c'est vrai que avec le sport, ça m'a guéri pas mal aussi. Hein. Mm-hmm. Le sport y est pour beaucoup. Hein. Ouais. Puis c'est un défi que je me lance. Et... Bon, bien que je fasse plus de marathon, mais enfin, j'espère en refaire un. On sait on jamais.
Ouais, vous êtes bien parti pour.
J'ai une petite question par rapport à ce que tu nous dis. C'est quoi cette puce que tu mets à
tes... C'est une puce électronique. Ça permet de passer sur le tapis d'arrivée. Et on est connecté avec la puce et ça donne automatiquement
le temps, le nom du
participant. C'est pas un podomètre qui calcule combien
non, non, non,
de
c'est pas
non, 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 c'est un chronomètre en fait. Sous forme de...
C'est un mouchard en fait.
C'est un mouchard,
ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
D'accord.
Oui, c'est dans toutes les courses maintenant. Il y a. Mm-hmm. Et ça permet. C'est moins rébarbatif que le dossard à enlever. C'est vrai que c'est un outil, une
avancée technologique.
Nouveauté, hein. Oui, c'est ça. Ouais.
Mais bon, faire 4 km pour avoir un verre d'eau.
Mais il faisait chaud dimanche.
Ce qui dit pas, c'est qu'il n'y a pas que de l'eau au ravitaillement. Hein. Il y a à manger aussi. Hein.
Oui, il y a à manger. Il y a du pain d'épices, il y a des raisins secs.
Des chocolats.
J'ai vu ça dans les marathons. Dans un marathon,
ouais, du chocolat. Régulièrement, il y a du chocolat.
Du sucre. Ben, bravo, Michel.
Bravo.
Merci.
Encore une question, Hugo.
Ça fait. Qu'est-ce que tu as un entraînement particulier pour réussir à tenir un peu toute cette.
Oui, il faut quand même un entraînement. Il faut au moins 3-4 sorties par semaine pour arriver.
C'est du sérieux quand même. Hein.
Pour avoir de l'endurance, oui. Il faut quand même. Faut quand même s'entraîner assez régulièrement.
C'est pas de la rigolade.
Vous vous entraînez combien de fois?
Moi, c'est 3 ou 4. Avant, c'était 5, voire 6, mais maintenant, c'est 3 ou 4. J'essaie de faire une sortie assez longue quand même, dans le dimanche de 1h30. Mmh. Voilà.
Ok, merci.
Et, aussi, on en reparlera pour refaire les vélos...
Les petits cyclettes. Ah, c'est l'année prochaine, ça.
Ouais,
ça, c'était une belle
expérience. Mais oui, on garde ça dans le coin de la tête. Hein.
Ouais. Ça, c'était une belle expérience.
Comme l'a dit Yannick, on va s'entraîner encore pendant longtemps. Vas-y, Marie.
Bon, bah, reprends merci la parole. Michel pour nous avoir fait partager votre expérience sur votre course à pied.
Maintenant, je vais vous présenter Cathy.
Bonjour à tous, je suis ravie de participer à l'émission.
Tu vas nous présenter un livre qui s'appelle Les yeux jaunes des crocodiles.
Ah, voilà, c'est tout à fait cela. Je voudrais vous faire découvrir ce roman. Qui est née au Maroc d'un père ingénieur. Catherine Pancol arrive en France à 5 ans sur Paris. Adulte, elle s'inscrit en fac de lettres à Nanterre. Elle a un doctorat en lettres modernes, c'est Robert Laffont qui la remarque. Elle rentre en France en 1991 et continue d'écrire « Vue de l'extérieur ». C'est en 2006 son roman « Les yeux jaunes des crocodiles » la propulse à nouveau au sommet des listes des meilleures ventes. Catherine Pancol partage sa vie entre la Normandie et Paris. C'est l'histoire d'un ménage qui est confronté à différents faits de société, le chômage, l'amour, l'argent, l'éducation des enfants. Le père de famille, après une rupture avec sa famille, bien et estimé de tous, se sent partir à la conquête de l'Afrique afin de s'occuper des crocodiles, les nourrir ainsi que les dépecer. Mais ce long travail est de longue haleine, sans parler des dangers que représentent ces crocodiles, mais mal payés, se plongent dans l'alcoolisme. Joséphine, son épouse, de son côté, se sent seule depuis le départ de son mari. Mal dans sa peau et dotée d'un physique ingrat, elle se laisse aller face au regard de ses enfants. Hortense, l'une de ses deux filles, pose un regard assez négatif sur sa mère. Enfin, elle lui reproche sa façon de gérer son foyer, de l'avoir se laisser aller au quotidien, sa façon de se vêtir et le fait de ne pas travailler pour combler le vide. Mais un beau jour, elle se remet à travailler pour sa sœur. Iris, qui auprès d'un éditeur qui la prend au sérieux, lui propose d'éditer son roman. Victime d'une imposture, c'est alors qu'elle va supplier sa sœur d'écrire le roman pour elle. lui promettant de laisser tout l'argent des ventes pour sortir de ses dettes. En échange du prestige d'avoir écrit l'œuvre, Joséphine accepte à contre-cœur le roman à sa sortie étant censé par la presse, connaît un succès prodigieux auprès du public et devient best-seller en quelques mois. Les relations entre les deux sœurs se compliquent et l'imposture commence à devenir visible dans la famille. Sur fond d'instabilité conjugale à tous les niveaux générationnels, les destins de ces femmes faits de déchirements, de mépris mutuel et de jalousie vont entrer en mutation jusqu'à trouver un équilibre naturel. Mais Iris sera-t-elle démasquée ?
Merci.
Magnifique livre. Magnifique livre qui a été, il me semble, adapté au cinéma par Cécile Tellerman. Ça s'appelle « Les œufs jaunes du crocodile » avec, je crois que la malheureuse sœur, c'est Julie Depardieu, et la belle Iris, il me semble que c'est
Emmanuel
Béard. Voilà. Et c'est un film sublime sur la complicité des deux sœurs qui deviennent un petit peu, qui se bagarrent en fait à la fin. Hein, parce qu'il y en a une.
Il y a le suspense qui est présent.
Ouais, le suspense jusqu'au bout du film, c'est très très intéressant.
Il était très beau.
Ça me donne envie de le lire.
Mais il me semble que ce livre fait partie d'une trilogie chez Catherine Pancol. Il y a trois livres qui se suivent. Il y a deux livres qui suivent celui-là, il me semble.
La vue de l'extérieur.
Oui, il me semble que c'est une trilogie. Elle les a sortis à peu près à la suite, il me semble.
Ouais.
Merci Cathy, c'était super. Hein.
Merci Cathy. Merci
belle prestation
beaucoup,
pour une première Cathy.
Merci beaucoup.
Très bien.
Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Sans plus attendre, nous retrouvons Pierrick pour nous parler du code du travail. À vous, Pierrick.
Bonjour Marie. Bonjour à tous. Pierrick. Alors, je vais présenter un sujet un peu lourd en ce moment, la réforme du travail. Donc, la réforme du travail est un sujet houleux qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Manifestation de syndicats, du parti de Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, et raillerie en tout genre entre divers partis politiques. Mais qu'est-ce que c'est que le code du travail ? Le code du travail, c'est un texte de loi qui rassemble toutes les lois qui protègent les travailleurs, aussi bien financièrement que dans le cadre social. Le parti veut l'assouplir pour le rendre plus maniable aux chefs d'entreprise, en pénalisant le salarié, bien sûr. Quoique j'entends bien qu'il essaie d'être juste entre les deux parties. Mais en quoi ça consiste la réforme ? Ça signifie qu'ils vont voter au Parlement un tas d'ordonnances pour légiférer sur le nouveau code du travail. Alors il va y avoir des débats accrochés entre les parlementaires pour légiférer sur le code du travail. Pourquoi modifier le code du travail ? Le modifier pour assouplir le marché du travail et relancer l'emploi dans le pays. Est-ce que ça peut fonctionner ? Ça, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais ça peut être une solution avec un appauvrissement certain des salariés. C'est quand même un retour en arrière par rapport à nos parents qui ont bénéficié du code du travail dans la lignée la plus juste.
Bien.
Merci Pierrick. Un sujet houleux en ce moment.
Ouais, ouais. En ce moment.
C'est vrai, vous avez démarré comme ça, mais c'est vrai.
Donc on continue maintenant avec un moment détente. C'est Thomas qui nous présente une activité qu'il appelle antique.
Non, c'est pas antique, c'est parce que je vais présenter un petit texte sur le yoga, les exercices spirituels. Et la question est posée, une origine commune. Donc on va s'écouter un petit peu en fond musical de la musique indienne. Pas tout à fait, parce qu'il y a un violoniste d'origine anglaise apparemment, ou indien. Je sais pas bien, c'est Yogi Menuhin. Donc ça c'est bien indien. Maintenant c'est un duo sitar violon, voilà, donc c'est traditionnel mais contemporain, du 20e en tout cas, voilà. Donc je vous dis le petit texte. Toute la philosophie antique est exercice spirituel, expression qui désigne toute pratique destinée à transformer en soi-même ou chez les autres la manière de vivre, de voir les choses. C'est à la fois un discours, qu'il soit intérieur ou extérieur, et une mise en œuvre destinée à aider l'homme à mieux vivre, à mieux être, à jouir de ce qu'il vit, plutôt qu'à vivre soumis à ses passions, finalement jamais assouvi. Cette notion d'exercice spirituel s'élabore au sein des différentes écoles de l'Antiquité, notamment les stoïciens, les épicuriens et les cyniques. Si cette pratique des exercices spirituels naît au sein de la philosophie antique, il peut se retrouver encore aujourd'hui dans la philosophie contemporaine. Il semble que son émergence ne soit pas étrangère au développement de la pratique du yoga. C'est certainement dans l'Odyssée d'Homère que l'on peut déceler une première forme d'exercice spirituel lorsque, confronté au cyclope Polyphème, Ulysse s'adresse à son cœur en frappant sa poitrine, lui demandant de savoir être patient.
D'autres thèses tendent à montrer que l'origine de l'exercice spirituel est à rechercher dans des traditions magico-religieuses et chamaniques, de techniques respiratoires, de tensions du diaphragme, à l'instar de disciplines de type yoga et d'exercices de mémoire. L'idée d'une certaine correspondance entre l'exercice de séparation volontaire de l'âme en présentiel et l'exercice de type yoga en Inde a souvent été avancée. Ceci s'explique par le fait que l'on trouve chez les praticateurs magiciens un peu plus caractéristique, une pratique continue de la 16 qui prend des souvenirs de type yoga et des mouvements sous des réinventions. Alors je vais
vous expliquer comment. Excusez-moi Thomas,
ouais.
Comment ça se fait que vous nous avez présenté le yoga ? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous le yoga ?
C'est au niveau des exercices de respiration avec le groupe d'entraide mutuelle. Maintenant ça y est, donc comme on l'a dit, c'est acquis. On fait des exercices de sophrologie, c'est de la relaxation. Moi, en fait, le yoga personnellement, ça peut tenir une posture et se concentrer sur son souffle. Ça peut apporter une détente très agréable. Voilà. Et après, là on parle de méditation philosophique, mais au niveau faire le vide en soi et se concentrer sur son corps et le bien-être de son corps, je pense que c'est une chose hyper importante. Après, je sais qu'on avait discuté avec un pote qui était passionné de ça, et il disait, lui, je me vide tous les matins. Tous les matins, je me fais une demi-heure de méditation, et pour moi, la méditation, c'est rien, c'est penser à rien.
Et à vous, est-ce que vous avez... Vous le pratiquez depuis peu, je pense, ou depuis longtemps, le yoga?
Non, je le pratique pas, moi c'est ma mère qui le pratique.
D'accord.
Mais on va préparer du yoga pour maintenant. tous les deux semaines, on va faire un cours de yoga de toute façon.
Au Bel Envol.
Voilà. Avec Hélène.
D'accord.
Hélène.
C'est bien, okay. il y a plein d'associations à Boulogne où il y a cet atelier de yoga. Hein.
Ça existe depuis un bon moment. Mmh. Ça fait un bon moment qu'on en parle aussi, des médecines douces. Après, c'est pas parce qu'on prend un traitement, comme on en a parlé tout à l'heure, qu'il ne faut pas oublier les médecines douces. Qu'il faut oublier les médecines douces.
Oui.
Ouais, complémentaires.
Elles sont totalement complémentaires.
Tout est complémentaire.
Voilà, ouais.
Tout
à fait, bien sûr. Ouais.
Là où vous videz la tête au yoga, Michel se vide la tête quand il court.
Oui, voilà.
Hein, voilà, chacun son mode d'échappatoire. On a chacun le nôtre, en fait. Mmh.
Donc ça vient de votre maman, donc, en fait.
Oui, c'est ma mère qui était enseignante et qui a dû faire du yoga conseillée par son médecin pour poser sa voix. Parce que, comme tous les enseignants, elle gueulait dans la classe et non mais voilà, elle s'est cassée la voix.
Faut dire ce qui est.
En gueulant dans la classe, elle fumait pas, elle s'est cassée la voix.
D'accord.
Elle a désappris à poser sa voix. En fait.
Ok. Et donc là, je m'adresse à Hugo. Vous allez avoir un professeur, au niveau du yoga, une sage ou un sage qui va venir.
C'est pas un sage, non mais c'est une, à la base c'est une prof de danse, mais qui a diversifié son activité pour compléter un peu. C'est comme tout le monde, hein. On cherche un peu
à se faire du bien,
voilà. Et donc on va découvrir ça la semaine prochaine. Je vous raconterai.
D'accord. Ah super.
Avec plaisir. Ah oui. Ok, quelque chose à rajouter, Thomas?
Non.
Non.
Non. Après, moi personnellement, je joue de la clarinette. Je sais que les techniques du souffle, c'est très important pour les instruments avant, en général. Même, c'est souvent conseillé pour tous les instruments, que ce soit le piano, même le violoncelle. Apparemment, le problème pour le violoncelle, c'est que ça fait bouger, ça fait lever le violoncelle du ventre. Mais c'est des exercices hyper importants pour la concentration avant tout dans la musique.
Ouais, c'est important quand tu joues de la musique.
Oui, c'est ça.
L'exercice de respiration.
Ouais.
C'est important pour beaucoup de choses, la respiration.
Ouais.
Voilà, oui.
Donc le yoga va encore sublimer votre façon de jouer la clarinette.
J'aimerais bien reprendre tranquillement parce que là j'ai une dent qui se fissure à cause de la cigarette.
Ah, d'accord.
Alors merci, le yoga ça aide pour arrêter de fumer, hein, le yoga, Thomas, il me semble.
Ouais.
C'est une technique parmi tant d'autres.
Mmh. Merci.
Merci Thomas pour votre intervention.
Tout de suite, c'est une nouvelle pause musicale qui est proposée par Luc.
Oui, alors moi je vous propose en pause musicale le groupe Triggerfinger, qui est un groupe belge d'Anvers. Leur type de musique, c'est du stoner rock pour les aficionados. Le groupe est composé d'un guitariste qui est également chanteur, du nom de Ruben Block, d'un bassiste Paul Van Bruggem, c'est belge, hein, je suis désolé, et flamand même, et d'un batteur Mario Gossens. En fait, je les ai découverts au Poulpaphone il y a 4 ans, et je vous laisse découvrir le morceau qui s'appelle Cherry.
Sure.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Eh bien, de retour sur les boulons, les radios des boulonnés. Maintenant, on va recevoir Elisabeth qui nous présente ses invités qui sont art-thérapeutes.
Oui, merci. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de mes chroniques sur l'art-thérapie, j'ai invité Aude et Christine à venir nous parler d'un atelier que je trouve très très bien. Bonjour Aude, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Aude Aignon, je suis art-thérapeute à l'hôpital Duchesne.
D'accord. Tu animes pour l'hôpital Duchesne, à l'école municipale des arts de Boulogne-sur-Mer, un atelier hebdomadaire d'art-thérapie qui est particulièrement destiné aux patientes atteintes ou en rémission de cancer. Quand a été mis en place cet atelier ?
Alors, je précise aux patients. Parce que même, mais pour ne pas exclure les hommes, parce que même si on a une majorité de femmes, les hommes sont les bienvenus aussi. Donc cet atelier a lieu effectivement une fois par semaine. Il a été mis en place dès mon arrivée à l'hôpital, dans le cadre au début du projet Culture Santé. Donc au début c'était des interventions ponctuelles. Pourquoi à l'école municipale d'art ? Puisque l'idée c'était de sortir un petit peu du circuit maison-hôpital et de pouvoir proposer un moment de plaisir, de détente, de rencontre, un moment pour soi ailleurs, tout en étant dans la bienveillance, toujours en étant quelque part quand même dans le soin. Et donc cette action a été pérennisée. Effectivement, maintenant l'atelier a lieu toutes les semaines.
D'accord. Donc il est hebdomadaire, il se déroule sur quelle durée ?
Alors un atelier dure officiellement 2 heures, officieusement 2h30.
En moyenne, il y a combien de patients qui se retrouvent ?
Entre 1 et 8 ou 10 personnes maximum, puisque on ne s'engage à rien. Donc l'atelier est bien sûr gratuit. C'est un service qui est proposé par l'hôpital dans le cadre de la prise en charge en cancérologie, entre deux cures ou post-cure. Les gens ne s'inscrivent à rien, viennent quand ils peuvent et quand ils veulent. Donc je ne sais jamais qui sera là.
En fonction de leur état de santé.
Voilà, exactement. Voilà. Des contraintes. D'accord. Ou parfois aussi pour des bonnes raisons.
Tout à fait, Christine, tu participes depuis combien de temps à cet atelier ?
Moi, je participe à peu près depuis 2 ans.
D'accord. C'est un besoin que tu as eu ?
Ah oui, absolument. J'étais à la recherche de quelque chose qui me ferait du bien, mm-hmm. qui me ferait sortir de ce contexte hôpital.
D'accord.
Et c'est ce qui est bien parce qu'on est à l'école des Beaux-Arts.
Oui, c'est très bien d'avoir un lieu hors hôpital.
Oui, c'est ça. C'est
donc
ça.
Les bienfaits, en fait, sont essentiellement psychiques, psychologiques.
Les bienfaits sont...
À mieux-être.
Oui, il y a un mieux-être, mais pour tout, quoi. Parce que quand on sort de 2 heures d'art-thérapie, on a vidé beaucoup de choses, quoi. Mmh. On a tout mis sur le papier ou par terre, ou puisque on a fait plein de choses et on a mis tout. Moi personnellement, je mets dedans tout ce qui n'a pas été dans la semaine. Voilà,
c'est un défouloir.
Oui, ouais, voilà, voilà.
Mmh. Vous êtes plus zen, quoi.
Ah oui, ça c'est sûr. Et j'en ai besoin et quand je peux pas venir pour des bonnes raisons, malheureusement à cause du traitement ou la fatigue, les douleurs, ça me manque énormément.
Vous êtes nombreux à chaque atelier ?
Comme pour les mêmes raisons que moi, ça tourne un peu. On est en, je dirais, 6. C'est une moyenne. C'est une moyenne.
Tu m'as laissé entendre que le groupe s'entend bien.
Ah oui, oui, hein? Oui.
Non, mais
oui,
c'est très très bien d'avoir une, une bonne ambiance conviviale dans ce cadre, dans ce type d'atelier, je pense.
On s'entend vraiment très très bien.
Pardon.
Oui, vas-y, Aoud.
Non, je disais un petit peu comme quand Hugo parlait du j'aime tout à l'heure, il y a aussi cette idée avant tout de se retrouver. Donc c'est un groupe ouvert, hein, n'importe qui peut arriver à tout moment. Mais voilà, dans ce lieu, on se tutoie, on arrive, on prend le temps de boire un thé, un café, on discute autour d'un gâteau. Et voilà, c'est aussi et surtout un lieu de rencontre. Et effectivement, parfois, il y a des vraies amitiés qui se créent et des gens qui continuent à se voir à l'extérieur après avoir interrompu les ateliers ou entre les ateliers.
D'accord, mais c'est bien ça. Concrètement, comment ça se passe une séance, Aude, sur les thèmes, les techniques, c'est toi qui proposes
Alors, moi je suis formée aux arts plastiques, donc forcément je vais proposer des activités qui tournent autour des arts plastiques, ce qui laisse quand même un champ
très, possible. Très
voilà. Donc chaque semaine, sauf exception, mais chaque semaine c'est un projet différent. Puisqu'effectivement il faut que je fasse avec la contrainte, je ne sais pas qui sera là, donc que les gens n'aient pas à chaque fois la frustration de ne pas avoir pu terminer leur travail s'ils ne peuvent pas venir la semaine suivante. L'idée c'est aussi d'expérimenter des techniques. Donc chaque semaine je propose ou une technique ou un thème, parfois les deux mais rarement, de manière à laisser aussi une possibilité que l'activité soit pas trop trop cadrante, puisque là l'idée c'est que les gens puissent vraiment se l'approprier, s'exprimer et
lâcher prise,
et y amener aussi son style, sa personnalité, et découvrir que justement en partant d'une même proposition on fait tous des choses très différentes.
Est-ce qu'il est arrivé que des patientes te suggèrent d'aborder telle ou telle technique, un matériel particulier?
Alors, au bout d'un moment, en général, effectivement, il y a des gens qui me disent « moi, je suis plus à l'aise ou je préfère telle ou telle technique ». C'est aussi l'idée d'un groupe, c'est le principe de la collectivité, c'est que pour contenter tout le monde, on est obligé justement de faire des propositions différentes pour que tout le monde y trouve son compte à un moment ou à un autre. Mais effectivement, et ça c'est intéressant aussi, qu'on puisse dire au bout d'un moment, moi je préfère ça ou je n'ai pas aimé ça. Mm-hmm. C'est une manière aussi justement de s'affirmer, de s'écouter.
De se redonner un petit peu confiance en soi.
Tout à fait. Tout à fait.
Oui, donc vous avez des réactions peut-être?
J'ai une question à poser. Est-ce que cet atelier a un lien avec Air Cancer?
Non, pas du tout. Enfin, directement, non.
Non. Est-ce que vous partagez avec Air Cancer, qui est quand même quelque chose qui est quand même un...
C'est plutôt des contacts. C'est-à-dire que, comme avec ma collègue socio-esthétienne, enfin tous les acteurs des soins de support, dans le cadre de la cancérologie, quand moi je rencontre des gens et quand je pense que... ou quand les gens me disent clairement qu'ils ressentent le besoin de rencontrer la socio-esthéticienne ou effectivement quelqu'un pour pouvoir échanger, avoir un lieu d'accueil ou parfois envoyer quelqu'un de la famille qui est en difficulté pour parler de la maladie, etc. Je les oriente vers mes collègues dont Air Cancer et l'inverse aussi.
Oui, c'est ça.
C'est un échange. C'est de la communication.
Fin juin, je suis venue assister au vernissage de l'exposition de fin d'année. Christine m'avait donné l'info. C'est vrai que j'admirais la variété et la qualité des productions. De mémoire, il y avait des moulages en plâtre, des toiles, un chemin au sol plein de taches de peinture et même de la cuisine, puisque nous ont été offerts des pains surprises au look un petit peu particulier. Christine, tu veux bien nous en parler de ces pains figurines ?
Oui, mais nous avons reçu une designer culinaire qui venait même du Canada, c'est ça, Aude ?
Oui.
Qui nous a orientés vers ces personnages qui pouvaient gentiment représenter notre région avec des gueules, quoi.
Oui, voilà, tout à fait.
Voilà, c'est ça. Bon, on a d'abord pensé au film Petit Quinquin. Après, on a pensé aussi à l'autre film, je ne sais plus comment c'était, si vous pouvez m'aider, l'autre film qui a été projeté à Cannes.
Je ne sais pas.
Donc, on a fait le personnage.
Malout.
C'est ça, Malout. Excusez-moi.
Je ne pouvais pas t'aider, je ne l'ai pas vu.
Donc, on a pensé à Malout et on est parti là-dessus. Et on a caricaturé un peu Miss de
Miss Côte d'Opale.
Côte d'Opale, Miss Calais. On a caricaturé un peu des personnages comme ça, le boulonnais, le pêcheur boulonnais.
Il y avait l'ivrogne du village.
Il y avait
là, avec...
l'ivrogne.
C'était
parce
très,
que...
très bon d'ailleurs, ces petits.
Parce que.
Voilà, parce... Avec la petite sauce. Qui était censée ressembler à du vomi, mais elle était
oui,
très très
mais
bonne.
Oui, c'était très bon, c'était de la crème, c'était de la crème anglaise, c'était très très bon. Bon, on s'est dit, on peut se permettre parce que dans tous les villages il y a un ivrogne, donc c'était voilà, c'était pas méchant, c'était.
Il y avait aussi un pain surprise avec des doigts.
Il y avait
ça
doigts,
m'avait
c'était
énormément marqué. Ouais,
c'était maloute, on
avait bien marqué.
On avait confectionné ses doigts avec un fromage et de la pâte. Mmh. Il y avait du comté et ils étaient très très bons. C'était très bon ces doigts.
Oui, j'en ai encore un excellent souvenir.
C'était un peu bizarre à regarder, mais.
C'est vrai que les ateliers qui sont proposés, Aude, ils sont très très variés.
Oui. Hein. Puisque comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de pouvoir découvrir plusieurs techniques. Donc il y a des travaux sur grand format, des travaux en 3D, des travaux d'assemblage. Et puis aussi, par moment dans l'année, quand c'est possible, on bénéficie de l'intervention d'artistes qui sont en résidence sur le territoire boulonnais ou à l'hôpital par le biais du projet Culture Santé.
Moi je voulais dire aussi que Aude ne fait pas que ça, elle est art-thérapeute aussi. En santé mentale et en addictologie, donc elle apporte beaucoup de bonheur à ses patients, quels qu'ils soient. Oui. C'est pas que de la cancéro, elle fait aussi beaucoup de choses en santé mentale. Merci Aude.
Merci.
Bien, merci, merci à tous. Maintenant, on va finir cette émission tout doucement avec Marie qui revient, Marie qui nous présente la fête du hareng.
Donc Hugo, comme chaque année, il y a la célèbre fête du hareng. Donc cette année, cette fête du hareng, elle se déroulera le 18 et 19 novembre 2017, donc sur le port de Boulogne-sur-Mer. Et du coup, cette fête, elle est exclusivement dédiée au hareng, donc qui était le poisson roi, qui fit jadis la richesse du premier port de pêche de France, qui était Boulogne-sur-Mer. Et voilà, donc cette tradition, elle perdure depuis maintenant un petit moment.
Donc... On va présenter un peu la formule, c'est 3 euros pour du pain, chacun son pain, chacun son hareng.
Chacun son hareng.
Donc il peut être fumé, sauré, vinaigré, en conserve. Le hareng, c'est vraiment le produit phare qui s'exporte le mieux de Boulogne.
Ah, c'est une fête sympa.
Hein. Ouais. Oui, c'est une fête qui fonctionne grâce à ses partenaires également, qui existe depuis 25 ans. Donc il y a les centres de formation, tout ce qui est universitaire, le mariage boulonnais, l'office de tourisme, bon, tout ça. Vanessa, je crois que tu as un petit chiffre à nous donner.
Ah bon ?
Oui.
Quel est-il ? Alors le chiffre, tu voulais...
Je voulais savoir un peu combien on ramenait de poissons tous les ans.
Oui, alors sachant que dans le port de Boulogne, chaque année, il y a 15 000 tonnes de poissons pêchés dans notre port. Bien sûr, comment on dit, transformés dans les maisons de marée sur Boulogne. Donc on peut resaluer les gens qui travaillent dans les usines qui transforment le poisson. Des gens courageux, hein, des horaires et des conditions de travail pas très faciles. Donc voilà. Donc la fête du hareng, c'est un événement sur Boulogne. Donc voilà. Bah, Hugo, je te laisse.
Il y a notre chef opérateur son là, qui demande la parole.
Oui, non, mais c'était pour conclure, mais vous aviez peut-être encore des choses à dire. Là, c'est terminé.
Si,
là,
si.
Il y a encore des choses.
Pour cette émission, toute l'équipe des Boulons et des Boulonnais sont très heureux d'avoir reçu les étudiantes infirmières troisième année qui ont été vraiment actives dans ce projet, qui se sont investies, qui ont eu beaucoup de stress, mais qui ont super bien géré. On les remercie toutes au nom de toute l'équipe des Boulonnais. Merci d'être venus avec nous, les étudiants infirmiers.
Voilà, sachant aussi de préciser que l'émission est rediffusée demain, donc dimanche à 12h30.
Voilà, et la prochaine émission, bien sûr, aura lieu le samedi 25 novembre 2017 à 12h30, rediffusée le lendemain également à 12h30. Et le thème, on va quand même annoncer le thème, on sera sur la précarité. Voilà, je laisse conclure les animateurs.
Bah très bien, merci Marie, merci tous ces gens qui sont venus pour participer à notre émission et qui nous font avancer.
Merci et à bientôt, c'était la 12e édition et on se retrouve bientôt.